J'ai le plaisir, au nom du Collège de France et avec l'amicale complicité de John Child, d'accueillir aujourd'hui Matt Stolper comme conférencier du Collège. Comme l'on dit, Matt Stolper n'a pas besoin d'être représenté. Je citerai simplement deux instants qui me paraissent marquants, non pas dans sa carrière, mais dans sa production, peut-être d'un point de vue très subjectif. D'une part, ses activités babyloniennes, ses activités élamites, si je puis dire, dans le premier temps, je citerai, puisque nous sommes prêts de fêter le 40e anniversaire, non pas le tien, 40e anniversaire de la publication, non pas la publication, mais la soutenance de la thèse de Matt Stolper en 1974, qui fut un, comme on dit en anglais, seminal study, et qui fut un événement très important pour le déclenchement ou le redéclenchement d'études sur la Babylonie achéménide, dont il nous a parlé d'ailleurs une dizaine d'années lorsqu'il avait été invité déjà par le Collège de France pour un mois. Et je me souviens que c'était à cette occasion que j'avais eu le plaisir amusé de présenter l'un à l'autre Matt Stolper et Guillaume Kardashian, qui étaient là et que tu ne connaissais pas personnellement et qui étaient venus à ta conférence. Et donc, je ne dirai pas plus de l'activité babylonienne de Matt Stolper que chacun connaît. Mais depuis, on va dire, une dizaine d'années ou presque, il est à la tête d'un programme essentiel pour les études achéménides, à savoir la publication des tablettes de Persépolis, qui ont été trouvées à Persépolis dans les années 30 et transférées pour une partie à Chicago. Et donc, Matt Stolper dirige ce programme dans lequel plusieurs personnes ici travaillent, j'ai vu Wouter tout à l'heure qui était là, et qui commencent à donner des résultats tout à fait considérables. Et parmi les résultats, je ne vais pas en dire plus, il y a quelques années, Matt a trouvé ce que personne ne s'attendait à trouver, pas même lui, un texte en cunéiforme vieux perse, un texte administratif en cunéiforme vieux perse que chacun s'entendait à dire, une langue que chacun s'entendait à dire qu'il n'était utilisé que dans l'inscription monumentale. Donc, je ne parlerai pas plus de l'intérêt fondamental que nous ressentons à entendre son intervention aujourd'hui, qui porte précisément sur ce corpus, non pas persépolitain, mais élamito-persépolitain, de fragments de tablettes qui avaient été trouvés naguère à Kandahar, et dont il va nous parler aujourd'hui, ce dont je le remercie beaucoup. Merci. Tu as la parole.
OK. Merci. Thank you for that very generous introduction. I will speak in French, but it is Pierre's French. The problem with the content comes from me. The problem with the French, blame someone else. Alors, je voudrais en premier lieu dire le plaisir et l'honneur que je ressens à avoir été invité à présenter à nouveau une conférence au Collège. Je vous remercie de l'intérêt que, par votre présence, vous voulez bien accorder au sujet que je vais introduire aujourd'hui, et par anticipation, je vous suis également reconnaissante de votre patience. Je vais tenter de présenter les fragments de Kandahar d'une manière aussi précise que possible, mais je dois dire d'entrée que d'autres chercheurs, parmi lesquels Pierre Briand, Amélie Courte ou Wouter Henkelmann, ont déjà reconnu leur signification. Ma présentation sera nécessairement préliminaire, car je suis moi-même dans une première étape de la recherche et je fais appel à votre patience pour une seconde raison, c'est que je parlerai pour l'essentiel d'un seul fragment, d'un seul tablette. En même temps, je dois dire d'entrée que la lecture et l'analyse de ce simple fragment s'inscrit dans une vision large avec des implications qui concernent toute l'étendue de l'Iran achéménide. Concernant ma propre réflexion, je me dois de noter qu'elle a été en quelque sorte préparée et facilitée par des travaux intérieurs de Pierre Briand et aussi à d'autres points de vue par les réalisations de mes collègues du Persepolis Fortification Archive Project à l'Oriental Institute of the University of Chicago. Alors, pour commencer, partons donc de Persepolis. Persepolis et de son archive des fortifications, le PFA, found here. Beaucoup d'entre vous, à coup sûr, sont déjà familiers avec cette documentation administrative. Néanmoins, même de manière aussi brève que possible, je voudrais à ce point offrir quelques remarques introductives sur ces éléments constitutifs, sur ses caractéristiques, sur ses potentialités et sur sa typologie. L'archive est constituée de dizaines de milliers de tablettes d'argile et fragments. Il y a des milliers de textes en élamite, des centaines en araméen, une poignée en d'autres langues comme grec, babylonien, peut-être phrygien, sans oublier des milliers d'impressions de milliers de sceaux d'une très grande variété. Beaucoup de ces impressions accompagnent les textes, beaucoup aussi apparaissent seuls sur des tablettes non inscrites. Toute cette information circule, si je peux dire, à travers les fils multiples et interconnectés d'un seul système d'information qui, une fois enregistré, renvoie à une réalité des plus ordinaires, la circulation et consommation de produits alimentaires dans une région relativement étroite, c'est-à-dire la Perse, le Fars d'aujourd'hui, durant une période limitée, moins de 20 ans autour de 500 avant notre ère. On peut se poser la question de savoir si et pourquoi une telle archive présente des caractères exceptionnels à l'échelle de l'Empire achéménide. La réponse est triple. On doit souligner à la fois sa densité, sa complexité et son état de conservation. Sa densité, c'est-à-dire l'archive, regorge de données extrêmement détaillées. Sa complexité, on y trouve différents types d'informations, à la fois verbales et iconiques. Et son état de conservation, le corpus qui a été déposé dans l'Antiquité, dans le coin nord-est des fortifications de Persepolis, a été retrouvé intact. Il n'a été dispersé ni avant ni après sa découverte. En raison de toutes ces caractéristiques, l'archive des fortifications est la source d'information le plus abondante, la plus dense et la mieux contextualisée au cœur de l'Empire achéménide pour tout ce qui concerne les langues et la diffusion de l'écrit, mais aussi l'art achéménide, la religion et la société achéménide, les institutions et l'infrastructure administrative, et enfin, ce qui est décisif dans le cas étudié ici, la géographique, politique et administrative. Si l'on se tourne vers la typologie des tablettes, on peut dire que, du moins à première vue, il s'agit d'une archive qui renvoie à une utilisation purement locale. Mais en réalité, elle ouvre également des perspectives sur un monde impérial achéménide beaucoup plus vaste, et ceci sous deux points de vue très importants. Le premier est explicite, le second est implicite. L'un est explicite puisqu'un certain nombre de textes des fortifications mentionnent des échanges ou des relations entre Persépolis et d'autres centres de domination impériale. Pardon. Vers l'ouest, Suse, Babylone et Sardes. Vers l'est, Kerman. Inde est le pays qui est aujourd'hui au centre de mon propos, à savoir Arikosi, over here somewhere. Les exemples les mieux connus sont aussi ceux qui sont les plus utiles dans le cadre de la discussion ici menée. Ce sont les enregistrements des rations livrées aux voyageurs qui se déplace vers et de Persépolis ou qui passe par Persépolis. Il est fréquemment indiqué le document officiel en élamite halmi par lequel le gouverneur ou satrape de la région d'origine autorise le déplacement. Pris tous ensemble, ces documents ont permis de dresser une liste des provinces et des satrapes en place sous le règne de Darius. Certains d'entre eux peuvent être connus par d'autres sources, par exemple Irdapirna, c'est-à-dire Artaphernes de Sardes, connu en particulier par Hérodote. D'autres apparaissent dans notre documentation grâce aux seules tablettes de Persépolis, tel Irda Takma, dont le nom sous les habites élamites rend l'Iranien Arta Takma. Ici, sigle de Halmi Irda Takma. Alors, l'Iranien Arta Takma, et on peut citer également Bagabadush, soit Iranien Bagabadush, qui en poste à Kandarash, soit peut-être Kandahar. Cette ville est située dans la province nommée en élamite Harahaumatish, c'est-à-dire Arachosi. Comme je l'ai annoncé il y a un instant, outre l'ouverture explicite vers les horizons impériaux, on doit compter avec les références implicites. La langue, la forme ou la fonction de quelques textes des fortifications nous aide à interpréter des informations venant d'autres sources achéménides. Par exemple, encore, les tablettes de rations de voyage éclairent tout aussi bien un document araméen d'Égypte bien connu que des textes grecs faisant référence à des autorisations de voyage confiées à des Grecs par des satrapes. Ici, comment se dit en français? Thémistocles, right? Thémistocles. Ces remarques sur l'utilisation de l'archive des fortifications, peut-on dire PFA, Persepolis Fortification Archive, le PFA pour suppléer à un contexte manquant m'amène très directement à introduire maintenant un document qui sera au centre des remarques qui suivent, à savoir le fragment d'une tablette qui avait été retrouvé à Kandahar en 1977 et qui a réapparu en 2013 dans les collections dévastées du Musée national d'Afghanistan. Et donc, nous voici à Kandahar venant de Persépolis. Le site de Vieille Kandahar est localisé sur une crête à environ 3 km de la ville moderne qui fut fondée au XVIIIe siècle. la Society for Afghan Studies, aujourd'hui Society for South Asian Studies, y mena des fouilles entre 1974 et 1978 sous les directions successives de David Whitehouse et de Sven Helms. En 1977, les archéologues trouvèrent deux fragments brûlés des tablettes cunéiformes dans les avant-postes de la citadelle. Ici la section. Les fragments se trouvaient dans un contexte archéologique secondaire, clearly, dans le remplissage d'un fosse sous forme de dépôt dont la datation est maintenant estimée entre 700 et 300 avant notre ère. L'annonce de la découverte fut faite de manière discrète en 1978 par Helms dans un rapport préliminaire de la mission britannique. À cette date, le même Helms a envoyé à Edmond Solberger au British Museum des photographies des fragments pris sur le chantier. These are prints of those photos. Peu de photos des tablettes de Persepolis avaient été alors publiées. Il n'y avait donc aucune image disponible qui ressemblât de près aux fragments de Kandahar. Solberger put simplement lire correctement un petit nombre de signes préservés. En dépit de cela, il eut une intuition remarquable, à savoir que le plus grand fragment, this one and this one, était part d'un document achéménide élamite comparable au document d'argile de Persepolis. Helms publia cette identification en 1984 et à nouveau en 1997 en l'accompagnant des lectures provisoires et largement fautives de Solberger. Depuis lors, les réflexions et les plus appropriées sur les implications historiques de ces fragments ont été présentées à plusieurs reprises par Briand, Henkelmann, Kurt, Vogelsang et quelques autres, à savoir que ces fragments épars sont des reliques significatives d'une archive disparue. Ils apportent la preuve que l'élamite était utilisé pour l'archivage administratif d'un bout à l'autre de l'Iran achéménide, de Suse à Larek aussi. Ils montrent que les pratiques et les institutions des institutions administratives étaient comparables à celles que l'on peut mettre en évidence à Persepolis et qu'elles étaient aussi la règle dans l'Afghanistan achéménide. En 2007, Amélie Court publia une édition partielle du texte écrit sur le plus grand fragment, en utilisant mes propres notes, mais jusqu'à présent, aucune image ni aucune étude détaillée n'a jamais été publiée. Je suis responsable de ce retard, étant donné que Helms m'a envoyé les photographies des tablettes de 1982, il y a plus de 30 ans. J'espère pouvoir clore rapidement à cet regrettable silence et ma conférence d'aujourd'hui est un premier pas en ce sens. Depuis 1980, la situation qui a prévalu dans le pays d'Afghanistan n'a pas été très favorable aux antiquités, archéologie et musées, c'est le moins qu'on le puisse dire. Les membres de l'équipe d'un projet commun entre le Musée national d'Afghanistan et l'Oriental Institute de Chicago ont fait l'expérience quand ils commencèrent à y travailler au début de l'année 2012. Leur objectif était de créer un inventaire détaillé, exhaustif du musée et une base de données numérique en vue de gérer les collections du musée et ses archives. La situation est désastreuse. Environ 70% des objets originaux du musée ont été volés ou détruits, c'est-à-dire environ 150 000, soit 10 fois le nombre d'objets qui sont supposés avoir été perdus par le musée de Bagdad en 2003. Pire encore, 90% des registres du musée ont été également détruits. L'un des participants de l'Oriental Institute au projet collaboratif, Michael Fisher, ici, raconte que des membres du personnel du musée connaissent parfaitement l'existence de ces fragments. Ils pensaient que ces fragments et d'autres fragments de tablettes étaient quelque part dans le musée. Il est vrai que dans le magasin de céramologie, une boîte portait l'étiquette suivante, très encourageant, « including cuneiform tablets, not figurines ». Mais la boîte en question était vide. Au début de l'année 2013, cependant, des membres du personnel du musée réorganisèrent une réserve qui contenait des artefacts provenant du site gréco-bactrien Ihanum. Ils transfèrent alors les objets provenant de différentes sources vers les bureaux et leurs conservateurs respectifs. Et au milieu des caisses de poterie islamique, ils découvrirent un plateau sur lequel on avait rassemblé de petits objets d'argile. Parmi ceux-ci, le conservateur du matériel gréco-bactérien, M. Atik Hamdar, attira l'attention sur un fragment de tablette. Fisher envoyait à Chicago un message à propos de ce fragment. J'eus l'intuition que ce pourrait bien être l'un des fragments de Kandahar que Helms avait mis au jour 36 ans plus tôt. Nous envoyâmes alors à Kaboul des scans des photographies de Helms. Fisher confirma l'identification et vive l'autoroute numérique. Fisher envoya en retour de nouvelles images en haute résolution et que je montre ici à l'écran avec l'aimable autorisation du Dr. Omar Khan Massoudi, directeur du Musée national d'Afghanistan. Not much to look at. Le fragment qui à l'origine portait le numéro d'inventaire ici. It's the excavation number, not the inventory number. SF 1399. See, this was, pardon l'anglais, this was the original museum number. This means it was a Bronze Age artifact of unknown origin, because it was cuneiform, therefore Bronze Age. Il mesure à peu près 5,6 par 2,6 par 2,8 centimètres. Il est inscrit sur les deux faces. Here. Et sur un board conservé. Il ne porte aucune empreinte de sceau. Le rapport de fouille mentionne l'existence en surface de rainures, Helm says grooves, meaning these, I think, which he said, dit être caractéristique des tablettes élamites de Persepolis. Ce sont naturellement bien sûr les lignes que l'on trace à l'aide d'une stylet arrondie que l'on presse sur toute sa longueur sur la surface d'argile humide de manière à disposer des guides pour l'écriture. Le spécialiste des cunéiformes est plus étonné par l'orientation des lignes d'écriture. Elle court en effet sur chaque face dans deux directions perpendiculaires, dont la pratique des scribes mésopotamiens la plus ordinaire on considérerait cela comme une erreur, n'est-ce pas? Not a good thing to do. Il en est différemment des archives à Persepolis où nous trouvons des parallèles. Comme ça. Aucun exemple, même là, les exemples ne sont pas nombreux. Parmi les 6100 tablettes et fragments avec texte élamite enregistrés jusque maintenant par le Persepolis Fortification Archive Project, il y a environ une douzaine d'exemples avec cette double orientation de texte. Aucun exemple n'apparaît parmi les 2200 documents élamites déjà publiés, ni parmi les 2500 documents dans le Nachlass de Hallock qui sont en voie d'être publiés par Henkelmann. Je souligne ce point de manière à montrer que même à l'heure actuelle, à partir d'un échantillon copieux, nouvelles caractéristiques ne cessent d'être mises en évidence et, dans le même temps, comme le montre la comparaison avec le fragment de Kandahar, même des détails rarement observés peuvent avoir des implications notables. Il est plus important de souligner que tous les exemples de cette disposition en deux directions sont présents dans les documents que Richard Hallock a rangés sous les catégories V, c'est-à-dire journals, journaux, et W, accounts, comptes. Les documents de ce type sont normalement écrits sur des tablettes rectangulaires qui sont souvent disposées sous forme de table ou registre et qui laissent des espaces non inscrits situés le long des marges gauche ou droite, du revers. Ces espaces sont plus commodes que les bords pour ajouter un texte, ajouter du texte en format tabulaire. So, this is a fragment of a text like this. This corresponds to this. And the additional text is here, in spite of the fact that the reverse is empty. Dans quelques occurrences, néanmoins, cette disposition à double orientation n'était pas seulement un expédient pour s'adapter à un texte contenu, mais un moyen imaginé pour insérer en disposition perpendiculaire des tabulations sur une face et un texte courant sur la face opposée. So, texte courant ici. Continue à la bord, continue ici, then, et puis écrasé et en perpendiculaire orientation, c'est tabulation. et ici aussi, et ici aussi. Malheureusement, cette disposition en double orientation ne permet d'atteindre aucune certitude sur l'orientation et l'organisation globale du fragment de Kandahar. La brusque orientation du texte vers le haut à la fin du seconde ligne de ce que j'appelle la face B, c'est-à-dire ici, évitant apparemment une zone déjà inscrite, suggère une séquence et une lecture, if one can call it that, comme suite. I will not read this. Le second fragment qui porte le numéro SF1400 dans l'inventaire des fouilles n'a pas encore été retrouvé. This one here. Dans les collections du musée. Nous disposons néanmoins de la photographie de terrain de Helms, the field photographs. Elle montre une surface prise sur le bord droit d'une tablette rectangulaire. On y distingue également la partie inférieure de 3 ou 4 caractères cunéiformes et l'extrémité de 5 lignes. On ne possède pas de photographie de l'autre face. Les deux fragments pourraient provenir d'une seule et même tablette, mais ils ne sont pas jointifs. And je pense que I don't think they were part of the same tablet. Une phrase bien identifiée apparaît deux fois dans le fragment SF 1399. Soit en Elamite Shutur Daka, ici, deux fois, que j'ai traduit par the Balance on Deposit, bilan de stock. C'est là une formule qui revient fréquemment dans les tablettes Elamite et Fortification, toujours dans un des deux contextes suivants. Elle vient d'abord à la fin ou près de la fin des bilans comptables d'opérations qui ont été faites à court d'une période comptable spécifiée, une, deux années ou plus, autour d'un produit spécifique, grain, vin, etc., sous l'administration d'un centre de district particulier. Ces bilans comptables sont habituellement situés vers la fin des registres qui appartient aux catégories V et W de Hallock, c'est-à-dire les journaux et les comptes. Et la structure normale de ce bilan comptable est le suivant, c'est-à-dire there's a carryover disponible on hand, ici en anglais, et then plus receipts, right? Revenus, reçus, total disponible, moins des bourses et bilan, c'est-à-dire Shutur Daka ou simplement Daka. En second lieu, la phrase Shutur Daka, ici, le bilan disponible, est la marque distinctive d'une autre catégorie définie par Hallock, à savoir la catégorie C2, qu'il a dénommée Accounting Balances. Ici, l'expression Shutur Daka qualifie une quantité qui est dite être calculée, Elamite Hasika ou Ashaka, ou encore être soldé, accounted for, Elamite Mushan ou Mushime Hushak, Hutak, pardon. What is it here? Hasika here, reckoned. La formule vient parfois après une liste de reçus, de dépenses, de transferts. Comme l'ont reconnu Mark Garrison et Wouter Henkelmann, ces documents doivent être compris comme des field accounts, comptes faits sur place. Ils entendent par là qu'ils ont été rédigés par des comptables responsables, des bilans intermédiaires dans des centres régionaux, c'est-à-dire des audits préliminaires d'informations qui sont appelées à être rassemblées et compilées dans des documents comptables finaux, les journaux et comptes. L'autre phrase préservée dans le fragment, hi shama, que j'ai traduit par including, incluant, comprenant, a une distribution un peu plus étendue dans les tablettes. Elle aussi est spécialement fréquente dans les journaux et les bilans comptables, et aussi dans les soldes de compte du genre que j'ai décrit. Dans ces contextes, elle introduit ici, répartit des totaux disponibles, c'est-à-dire entrées désignées sous les termes Elamit Amma. I won't show you the example here. OK, tentons de synthétiser en quelques mots ces détails formels et contextuels. L'heureuse intuition de Solberger sur les fragments de Kandahar est encore mieux fondée qu'il aurait pu l'imaginer. On observe en effet la combinaison de trois éléments. D'une part, la forme rectangulaire des tablettes dont proviennent les fragments, caractéristique à Persepolis des journaux et des comptes. D'autre part, la disposition du texte sur le fragment existant, avec des parallèles très proches à Persepolis dans les séries W et V. Enfin, la formule préservée Shutur Daka, elle-même régulière à Persepolis dans les bilans comptables. Cette combinaison suggère fortement que ces fragments viennent de documents comparables aux journaux et comptes de l'archive de fortification de Persepolis. La similitude de la forme et du contenu implique à coup sûr une similitude identique dans le fonctionnement administratif. Si le fragment de Kandahar vient en fait d'un bilan comptable, cela implique qu'il y avait un compte des revenus et des dépenses à équilibrer. De plus, comme Amélie Court l'a remarqué dans son commentaire, cela implique l'existence d'autres textes sur la base desquels le compte était établi et la mise en œuvre des procédures bureaucratiques proches de celles qui sont connues à Persepolis. Ajoutons qu'il ne s'agissait pas seulement de procédures, mais d'une population locale et régionale organisée, ravitaillée et contrôlée de la même ou presque la même façon qu'à Persepolis. Si l'on veut donner plus d'ampleur à cette inférence, on doit tenir compte du flux par lequel l'information circule à travers l'archive et l'organise, tentant donc d'en extraire brièvement l'essentiel. La grande majorité des tablettes de Persepolis sont de deux sortes, distinguées l'une de l'autre par leur forme, leur contenu et leur place dans les circuits de l'information. La première catégorie comprend les mémoranda, en partie simple, les opérations administratives réalisées, les opérations individuelles, incluant à la fois les enregistrements d'avoirs et des crédits et les enregistrements des débits, dépenses et de consommation. Presque toutes sont écrites sur des petites tablettes en forme de langue, constituée autour de ficelles nouées, et la plupart de ces tablettes portent des empreintes de sceaux. La seconde grande catégorie rassemble les journaux et les comptes, la plupart d'entre elles étant des enregistrements qui compilent, rassemblent en tableaux, résument et condensent l'information sur les avoirs et les dépenses. Une information transmise par les memoranda constituée chacun d'un seul item. Presque toutes ces tablettes sont de forme rectangulaire en registres variés ou en format tabulaire. La plupart sont scellées, mais avec des sceaux différents de ceux que l'on trouve sur les mémorandums. Dans l'ordre normal des choses, pour reprendre l'expression de Henkelmann, les mémorandums qui enregistrent les opérations dans les territoires autour de Persepolis étaient rassemblés et envoyés au bureau de l'administration centrale à Persepolis. Là, ils étaient collationnés et condensés dans des registres et des comptes. Les mémorandums étaient donc créés dans les premières étapes du processus, dans l'arrière-pays, et ils étaient voués à être mis au rebut dès lors que leur contenu avait été transcrit. Les registres et les comptes étaient créés tardivement, le secondary stage, à Persepolis même. Ils étaient destinés à y être conservés sous forme de fichiers. La découverte à Kandahar d'un fragment enregistrant un bilan comptable des entrées et des sorties suggère un processus d'enregistrement identique, ainsi que l'existence d'une archive administrative perdue, ou, si l'on veut, une sorte d'archive des fortifications de Kandahar, la citadelle de vieille Kandahar, ou encore une collection de documents primaires à partir desquels les bilans étaient établis, mais aussi des offices locaux où les documents primaires étaient produits, une institution centrale où l'information était compilée et condensée, enfin une province administrative qui était contrôlée par cette institution centrale. L'identité de cette province administrative et l'identité de son centre ne peuvent être déterminées que par la provenance des fragments. Le contexte archéologique secondaire dans lequel les fragments furent trouvés, une fosse remplie de cendres, laisse place à l'incertitude, bien sûr. Néanmoins, il est peu probable qu'à cette époque, des fragments de ce genre aient été transportés très loin de leur source pour être déclassifiés. Il est très probable qu'ils l'ont été là même où ils avaient achevé leur vie administrative. En l'état actuel, nous devons donc admettre en hypothèse de travail que ces fragments proviennent de la citadelle de Vieille Kandahar ou d'un lieu proche. Dans cette hypothèse, la citadelle de Kandahar a dû alors avoir, avec l'Arachosie achéménide, un rapport comparable à celui que la forteresse, en élamite Halmarash, de Persepolis entretenait avec le Perse achéménide. Cela renforce la probabilité que Kandahar, plutôt que Gandhara, est le lieu appelé Kandahara dans les tablettes de Persepolis, c'est-à-dire aussi la ville d'où Bagabadush, le gouverneur Bagabadush, délivrait des autorisations du voyage entre l'Arachosie, Persepolis et Suse. Cette observation en entraîne une autre. relativo mortier pilon et plat de Persepolis inscrit en araméen, selon une interprétation aujourd'hui largement admise. Ils impliquent l'existence d'une organisation administrative en Arachosi achéménide comparable à des grandes lignes à celles que les tablettes élamites administratives révèlent en Perse, avec un trésorier central, Ganzabara, ayant la haute main sur plusieurs districts sub-régionaux et sub-trésoriers. Upa Ganzabara. Et le Ganzabara, on peut lire ici dans ces textes. Alors, à cette approche globale et cohérente, les fragments de Kandahar apportent une nuance complémentaire, à savoir qu'en Arachosi, comme en Perse, l'araméen n'était pas la seule langue de la chancellerie achéménide. Si des restes substantiels d'une archive des fortifications de Kandahar viennent jamais à être mis au jour, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils soient au moins trilingues, incluant au moins une langue iranienne transcrite en écriture araméenne et élamite, voire peut-être multilingue, comme à Persepolis. Comme je l'ai dit, une bonne partie de tout cela était déjà connue, mais aujourd'hui, les fragments de Kandahar sont mieux documentés qu'ils ne l'étaient. Une image complète de leur contenu nous aide à comprendre leur signification. Je ne suis pas préparé et peut-être non compétent pour me lancer dans une étape ultérieure de la recherche qui consisterait d'abord à condenser et synthétiser d'informations explicites des contacts entre Persepolis et l'Arachosi tels qu'elles continuent à être alimentées par l'archive de PFA. Ensuite, à mener des comparaisons avec des contacts similaires documentés entre Persepolis et d'autres centres de contrôle. Sur le premier point, les contacts entre Persepolis et l'Arachosi, presque toute l'information est enchâssée dans les enregistrements de rations délivrées aux voyageurs. La plupart ne rendent compte que de contacts superficiels. En revanche, comme on a déjà observé, au moins deux tablettes se rapportent à des voyageurs qui transportent un tribut ou taxe, bazish en élamite, badji en iranien, de l'Arachosi à Suze ou de Barikana. Barikana versus. Sous Barikana, Paul Bernard et d'autres ont reconnu le lieu dénommé Parakana dans les textes araméens écrits sur les objets des pierres de la trésorerie de Persepolis. Et ce Barikana pourrait être lié au territoire du peuple appelé Parikanoï chez Hérodote. À la différence de ce que l'on voit dans un lot de tablettes de Persepolis, les tribus basiches pourraient ici ne pas être constituées de moutons et de chèvres, mais plutôt par exemple de l'or, de l'argent, d'autres produits spécifiques à l'Est Empire. On pourrait aussi penser à des objets symboliques comparables à ceux qui ont été trouvés dans la trésorerie à Persepolis. Ces textes n'attestent pas seulement de contexte administratif entre Kandahar et Persepolis, ils mettent également en évidence l'existence de contacts politiques sous la forme d'une subordination de la périphérie vers la centre ou les centres. J'en viens au second point, les rapprochements avec des tablettes similaires attestées entre Persepolis et d'autres centres de contrôle. There is more to be done here. Mais le point de comparaison le plus frappant est un document administratif achéménide dont on pense qu'il provient de Suse. Il a été publié pour la première fois par le père Scheele dans MDP 11 et il a été récemment l'objet de nombreux commentaires. Ce texte rend compte de la livraison de produits alimentaires pour les besoins de la cour royale selon un processus administratif que l'on rencontre très fréquemment dans les tablettes de Persepolis, particulièrement dans celles de la série J. Comme Mark Garrison l'a bien vu, l'empreinte qui y est portée. Where is it here? L'empreinte sceau. Qui est portée est celle d'un sceau utilisé aussi à Persepolis sur des documents de même nature. Les implications de la tablette de Suse et celles de fragments de Kandahar sont légèrement différentes. Elles sont également complémentaires. La première de Suse constitue une documentation explicite sur la gestion des biens et the early stage of documentation. Le second représente une documentation explicite sur la gestion et la circulation de l'information, the secondary documentation. Il est possible qu'il existait à Suse une archive administrative. Il est probable. Et il est probable qu'il y eut à Kandahar une archive des fortifications. Il n'est pas nécessaire de postuler que l'une et l'autre étaient d'une taille et d'une fonction exactement identiques à celle de Persepolis. Et il est probable que dessus, à Kandahar, les archives différaient également en taille et fonction. Les registres et les opérations dont l'existence est induite en amont par le fragment de Kandahar peuvent avoir été moins nombreux et moins variés que ceux de Persepolis, impliquant des biens moins importants, moins de personnel et de bureaux, et se rapportant à une strate sociale plus provinciale qu'impériale. Par leur forme et leur expression, l'archive postulée et la province administrative correspondante évoquent ce que l'on peut voir à Persepolis, mais ils ne dupliquaient probablement pas ce qui existait à Persepolis. De l'une à l'autre, on peut établir les mêmes différences que celles qui existaient entre la cour centrale et les cours satrapiques. Celles-ci correspondaient à la première dans leur forme et leur expression, mais elles ne la dupliquaient pas. Il y a plus de 10 ans, Pierre Briand introduisait son histoire de l'Empire perse achéménide par une question demi-ironique. L'Empire achéménide a-t-il jamais existé? Sa remarque renvoya pour une part au fait que la documentation relative à l'organisation impériale avait été enchâssée dans les histoires particulières de Babylonie, de la Judée, de l'Égypte et autres sociétés à écriture. Les fragments de Kandahar, aux côtés de la tablette de Suse, soulèvent la même question à nouveau, mais cette fois dans un cadre référentiel iranien. Comme Briand, on a déjà fait clairement la remarque dès 1984 dans ses réflexions historiographiques sur le Bactrian achéménide. Les fragments et la tablette nous permettent d'entrevoir quelques-uns des éléments constitutifs de l'organisation impériale dans les territoires iraniens de l'Empire achéménide, dont les histoires particulières ne nous sont pas accessibles de la même manière que le sont celles de Babylonie ou l'Égypte, etc. Les limites des inférences sont condamnées à rester incertaines et les images que nous pouvons élaborer sont condamnées à être imparfaitement centrées. Reste l'observation essentielle. Le succès éventuel de nos efforts de compréhension ne peut venir que d'une analyse faite à travers le prisme de l'archive des fortifications de Persépolis. Et je vous remercie pour la patience. Merci.